Si vous voulez tourner avec moi dans Acte 14, je vais lire le passage qui conclut le voyage de l'apôtre Paul et de Barnabas. Pour ceux qui étaient avec nous, on est dans les Actes, en ce que je suis dans les Actes. Toujours dans le premier voyage de Barnabas et Saul de Tarse, qui est devenu Paul, l'apôtre, avec Barnabas. Et ils vont conclure maintenant le premier voyage missionnaire qu'ils vont faire. Acte 14, verset 19, nous dit « Alors survint d'Antioche, dans le contexte ici, c'est Antioche de Pisidie, donc l'Antioche qui se trouve en Asie mineure, et d'Icône, des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Et quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent à Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. Et de là, ils s'embarquèrent pour Antioche, naturellement Antioche de Syrie, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. C'était la lecture de la parole de Dieu. Donc l'apôtre Paul, appelé Saul, qui était de Tarse, avec Barnabas au chapitre 13, ont été recommandés par cette église d'Antioche en Syrie. Cette église qui avait connu un réveil assez spécial où les premiers païens et les premiers juifs ont commencé à adorer et servir Dieu ensemble. Et on se rappelle que les croyants de Jérusalem, les juifs croyants de Jérusalem, avaient envoyé Barnabas parce que c'était un phénomène nouveau et il fallait maintenant s'ajuster à ce nouveau défi, si on peut dire. En théorie, c'est toujours beau. En pratique, ça demande finalement une mort à soi-même. Et quand on parle de mourir à soi-même, on ne parle pas nécessairement de toujours mourir à des aspects négatifs de nos vies, mais peut-être souvent aussi à des aspects qu'on tient et qui sont extrêmement positifs, mais qui freinent, littéralement qui freinent la grâce de Dieu. Fait que je sais que c'est bizarre un peu, parce qu'on est habitué d'entendre parler de la repentance, de toutes les mauvaises choses qu'on fait. Et c'est vrai, ça n'enlève rien à ça aussi. Car si vous êtes dans une rébellion devant Dieu, en train de marcher dans ce qui est contraire à ce que Dieu vous commande, bien c'est sûr que vous êtes en train de faire du tort, il n'y a pas de problème. Puis on n'a pas besoin d'être éclairé tant que ça du Saint-Esprit, je pense habituellement, là. Par contre, pour se mettre en garde contre ce qui est en nous comme un trésor, comme quelque chose de bon, quelque chose de louable, quelque chose qui nous distingue même des autres, ça, par contre, là, il faut le ministère du Saint-Esprit pour nous montrer le danger que ça peut faire dans nos vies. Parce que le gros de nos colères, de nos rébellions, de nos crises, viennent pas nécessairement de nos faiblesses. Parce que ce qui est faible dans nos vies, ce qui est limité dans nos vies, au fond, nous amène toujours à croire et à espérer la grâce que Dieu nous amène en Jésus-Christ. Fait que ça, c'est pas un problème. Mais souvent, les gens ont oublié de se mettre en garde contre ce qui, encore une fois, fait notre gloire personnelle. La fameuse justice qui vient de ce qu'on fait. Et c'est vraiment, je vous encourage à croître dans cette justice. Je sais que j'allais être en contradiction avec moi-même, là. De croître dans cette justice, mais faites-le par amour pour les autres. Faites-le pas par esprit de narcissisme. Il n'y a rien de plus désagréable, même pour des gens très normaux qui vous regardent aller, il n'y a rien de plus désagréable que quelqu'un qui vit que pour lui-même, son développement personnel. C'est une maladie du 20e siècle et que le 21e est en train d'exacerber de manière incroyable. On est tellement atomisé, on est tellement des créatures s'adorant soi-même qu'à la limite, on a tout sacrifié au culte de soi. La famille. Tout a été enlevé pour que j'aie aucun obstacle pour me réaliser. C'est hors de question que la communauté va me freiner dans tout le potentiel qui dort en moi. Je veux devenir finalement l'être le plus merveilleux que la Terre a jamais vu. Mais on oublie que c'est ça qui nous amène finalement une destruction dans ce monde. Alors, l'apôtre Paul et Barnabas qui sont en train d'annoncer ce message l'annoncent dans des conditions assez spéciales, au point que, selon certains commentateurs, puis je pense qu'ils ont bien visé, la raison pourquoi Jean-Marc, ou Jean, tout dépendant comment vous le voyez dans votre version, là, au verset 13 du chapitre 13, les a quittés quand sont arrivés finalement en Asie mineure. Il a fait finalement la première partie du voyage à Chypre. Ça a tellement bouleversé finalement le Romain qui était en place, le proconsul, et surtout avec le phénomène du miracle ou du signe que les ténèbres ont rendu aveugle ce faux prophète juif qui essayait d'obscurcir les voies du Seigneur, le bar Jésus, et l'immense, que cet homme a sûrement donné des recommandations aux apôtres pour dire « allez vers les miens ». C'est la réaction normalement, que de vouloir annoncer une bonne nouvelle à ceux que tu aimes. Écoutez, quelqu'un vient d'avoir simplement vu un bon film. C'est assez superficiel quand même, tu sais. Vous avez vraiment vu un bon film. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez à job? Vous avez parlé du film. Il dit, as-tu vu ce film-là? Non, il faut que tu voies ça. Vous avez lu un bon livre? J'ai un bon livre à te recommander. Vous venez de trouver une vitamine qui vous fait pousser les cheveux. Incroyable, il faut que tu aies ça. Non, mais je veux dire, on est des êtres de bonnes nouvelles. C'est tout à fait naturel pour nous d'annoncer des bonnes nouvelles quand on en trouve. Alors, c'est sûr, moi je suis sûr que ce Sergius Paulus, il a dû finalement donner, et c'est une raison pourquoi il s'en va non pas tout de suite à Perge, où il arrive pour annoncer l'Évangile. Il laisse ces deux villes-là, il va annoncer l'Évangile juste à la fin quand il revient, parce qu'il faut qu'il reprenne le bateau au même port. Donc, c'est juste à la fin de son voyage, si vous remarquez que c'est là qu'il va leur annoncer l'Évangile. Mais il commence avec Antioche de Pisidie, car il semble y avoir des contacts que Serge lui a donnés et qui est en train finalement de dire, mon mec, je vais commencer parce qu'il est plus facile. La synagogue était le lieu où Dieu avait déjà commencé à travailler. On pourrait quasiment dire, Dieu laboure des terres, était mieux de semer dans des terres labourées que sur de la gravelle. Ça, rien pour enlever au pasteur Gravel au milieu de nous, c'est un homme de Dieu. Mais t'es mieux de travailler finalement dans quelque chose qui est déjà commencé à travailler et de commencer à investir dans du travail. En d'autres mots, notre génération devrait préparer la prochaine génération culturellement à recevoir l'Évangile. Donc, l'apôtre Paul va finalement, selon sa coutume, sa stratégie, aller de synagogue en synagogue, sachant très bien que certains vont croire, d'autres non. Il va faire un tri, mais pendant qu'il prêche l'Évangile à ceux qui normalement devaient croire, quand ils ont été préparés par la parole de Dieu, il va mettre à part ceux qui ont cru, mais pendant ce temps-là, la parole de Dieu avait commencé aussi à travailler ceux qui n'étaient pas de ce Commonwealth. Les païens qui étaient quand même intéressés à se demander, c'est quoi le sens de la vie? Et puis, le réveil se poursuit. Mais regardez bien, quelque chose de vraiment intéressant. Ils vont aller de l'avant, une réaction qui est quasiment toujours la même. Les bonnes personnes, et spécialement religieuses, ou qui sont dans la philosophie crue, si on pourrait dire. Okay? Parce que je veux faire une distinction ici entre un esprit religieux, parce que je pourrais vraiment mettre dans l'esprit religieux même les athées d'aujourd'hui. C'est religieusement qu'ils font la propagande à tous les jours de leur philosophie qu'il n'y a pas de Dieu. Et ils sont assez agressifs et fatigants. Peut-être que nous, dans le passé, le côté religieux chrétien, on les a écœurés un peu, ça se peut. J'en doute pas. Peut-être notre culture a manqué vraiment de sagesse dans le passé, dans les anciennes administrations de ceux qui annonçaient la parole de Dieu. Mais on ne fait rien de tellement original dans ce monde. L'Ecclésiaste dit pas que c'est nouveau, ça a déjà eu lieu. Ça fait que ce qu'il y a eu va encore avoir lieu sans arrêt. Donc aujourd'hui, c'est un peu l'athéisme, mais aujourd'hui, en venant, je ne sais pas si vous avez entendu à radio, j'écoutais Radio-Canada en venant, et puis il y a la partie Évangile des athées qui se donne assez régulièrement chaque dimanche. Ils sont assez fidèles là-dessus comme un culte régulier. Non, c'est ça qui est l'esprit religieux. On est assez régulier. T'sais, on fait des... On, et le baby boomer anti-chrétien commence à être détrôné par une génération plus jeune de nouveaux philosophes qui se déclarent non pas des anti-Dieu, mais des agnostiques maintenant. Ils disent, écoute, Dieu, je ne suis pas sûr, le nouveau disait, et puis il élaborait en disant, et puis les arguments que vous amenez en passant, là, les athées, ils les ont démolis un arrière de l'autre. Mais il dit, écoutez, je ne peux pas dire que je crois en Dieu, mais c'est comme si la nouvelle génération se disait, je vais être un peu plus prudent que cet esprit qui déclare sans douter que Dieu n'existe pas. Et à la fin, tu entends le plus vieux, parce que les baby boomers sont rendus des vieux à ce temps. Puis on a de la misère à le croire. Même si on a des cheveux blancs ou plus de cheveux, même si on n'a plus de dents et des dentiers, même si on prend de la... Comment ça s'appelle? L'antiflogistine ou je ne sais pas trop quoi, là? Parce qu'on ne court plus. Bon, mais ils sont en train d'être délogés par les plus jeunes qui disent « Bon, ça va, là, votre intransigeance envers ceux qui veulent croire. » Et le nouveau philosophe, lui, est en train de dire « Écoutez, d'une manière ou d'une autre, même quand vous mettez un système athée, vous le faites de manière religieuse. Vous en faites un culte. Vous organisez ça exactement comme une croyance. » Puis il parlait de le philosophe, là, finalement, du positivisme, le Comte. Là. Et un a lancé l'argument, le plus vieux, pour montrer qu'il était, tu sais, la société avait passé par trois étapes, a fini à devenir mature. Et le jeune philosophe a dit, ouais, mais en passant, vous vous rappelez, il a fini avec un catéchisme, le gars. Le gars qui était pour dire, on n'a plus besoin de Dieu, il finit avec un catéchisme de sa philosophie. Et littéralement, il s'est proclamé un sacrificateur, un prêtre de sa religion. Je dis, on s'en sort pas. On est religieux. On est des êtres qui adorent. Si c'est pas Dieu, c'est autre chose. Alors, on le sait tout. C'est ça notre problème. Même Paul va nous rappeler que ceux qui aiment leur argent au détriment des gens, c'est une idolâtrie. Ça s'appelle la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est un idole, c'est un Dieu, c'est un sauveur. Donc, le message de l'apôtre Paul, qui m'impressionne énormément, il est tellement clair, puis il n'est pas juste clair en information. Et c'est là que je trouve toute la splendeur de l'Évangile de Christ. Et en même temps, le mystère incroyable qu'est l'Église. Paul dit un message. Si vous et moi, on reprend un message de l'apôtre Paul et on ne fait que le lire, est-ce que vous croyez qu'on va avoir les mêmes effets que l'apôtre Paul? Prenez, je ne sais pas moi, son évangile décrit de manière théologique dans l'Épître aux Romains. Et mettez-vous sur la place publique et commencez à lire cette épître. Est-ce que vous croyez que vous avez des risques de vous faire lapider à la fin? Le seul moment où il va avoir une réaction assez intense, c'est si le Saint-Esprit le oint. En dehors de ça, les gens vont vous entendre parler d'une philosophie quelconque. Puis je suis impressionné de voir que l'apôtre Paul, ça finit presque toujours mal. Puis j'aimerais que, je sais que je vous fatigue avec ça, mais je veux juste nous rappeler comment ça se fait. Ou ça produit du monde extrêmement content, ou ça produit du monde, et en même temps, pour me dire, du monde vraiment pas content, mais il n'y a personne qui a l'air à dire « Bon, c'est son opinion, quand même. » Il n'y a pas de « Bon, c'est son opinion. » C'est ou un ou l'autre. Et ça, c'est la présence de Dieu avec quelqu'un. Ça, c'est Dieu qui confirme un témoin. Et ça, c'est intéressant. Donc, finalement, il va annoncer cet évangile. Et puis, Luc nous donne un résumé du message quand il est adressé, entre autres, aux Juifs, que les craignants Dieu avaient quand même comme notion. Donc, on essaie de trouver le point de contact. C'est vraiment comme toujours le fameux point, là, il est où le point de contact avec les gens quand on annonce l'Évangile. Donc, ici, il prend les Écritures, il va leur rappeler, finalement, dans son message, surtout l'aspect de la souveraineté de Dieu, le choix de Dieu, que Dieu fait grâce. Personne n'est là par mérite. Quand il va se retrouver après ça au chapitre 14 dans une ville païenne où là, il ne semble pas être en train, à Lystre par exemple, là, il semble annoncer l'Évangile, mais pas nécessairement dans une synagogue, dans le contexte ici. Et il va faire, Dieu va faire au travers de lui un miracle. Il dit au chapitre 14, verset 8, à Lystre, se tenait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. » Là, c'est la description que Luc, qui est médecin, nous fait. Je relis. « C'est un homme qui est assis, il est impotent des pieds, il est boiteux de naissance, il n'a jamais marché. » Donc, pour moi, il y a un petit problème, je ne comprends pas ce que être boiteux puis en même temps pas marcher, mais en tout cas, bref, il se traîne, OK? Il se traîne, le gars. Il n'a jamais marché. Ceux qui sont en physiothérapie, ceux qui ont le moindrement des notions médicales, qu'est-ce qui est le défi ici? OK, je te laisse tranquille, docteur, aujourd'hui. Christine, es-tu là? Elle est en physiothérapie, elle n'est pas là. Elle s'est-tu sauvée, Christine? Les deux Christine, en passant nos deux Christine, c'est deux. C'est quoi le défi? C'est que si tu n'as jamais marché, ton cerveau a fermé les breakers. Écoute, il n'a jamais marché, le gars. Est-ce que vous avez vu des enfants apprendre à marcher? D'abord, juste essayer de se lever debout, c'est vraiment un défi, là. Ton système, il doit apprendre à garder ça en équilibre. Ça va? Et puis après ça, apprendre à marcher, ça veut dire tu fais un pas ou deux, puis Dieu a bien fait les choses. Vous avez remarqué comment les enfants sont faits? Ils ont deux grosses joues en avant, un petit nez renfoncé parce qu'ils risquent régulièrement de se ramasser à terre. Non, c'est bien fait! En vieillissant, ton nez allonge de plus en plus. Il devrait y avoir des joues plus tard parce qu'en vieillissant, tu risques de faire les mêmes... Mais normalement, Dieu, quand ça commence, il te donne un break en disant « Je te mets des petits coussins, des petits rubbers, et puis ça va faire moins mal. » Ils sont enveloppés. Mais ils tombent souvent et ils persévèrent parce qu'ils ont une idée dans la tête, c'est de marcher, en général. Et là, cet homme n'a jamais marché. C'est un homme. Il a développé une mentalité, il a développé une vie, il est dans des réflexes. Je veux dire, le gars, même si tu lui donnais une paire de jambes neuves, il ne sait pas marcher. Et il écoutait la parole. Il écoutait la parole que Paul annonçait. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ça, c'est vraiment quelque chose de mystérieux. Il voit qu'il a la foi pour être guéri. Il y a quelque chose dans cet homme-là qui fait qu'il va se passer quelque chose. Le gars est travaillé, il est disposé, il y a quelque chose en lui. Et deux, celui qui annonce l'Évangile, il est aussi connecté. C'est pas juste quelqu'un qui parle de manière mécanique, il est connecté, il est en relation. Il y a quelque chose de vraiment, il y a quelque chose qui se passe. 2 Corinthiens 13, 13 nous rappelle que c'est l'esprit de la communion, l'esprit de la communication qu'on reçoit quand on reçoit le Saint-Esprit. On est en communion, en communication à nouveau, finalement, avec l'amour de Dieu, avec ce que Dieu est pour nous. Le Saint-Esprit est supposé d'illuminer, finalement, dans notre entendement, ces compréhensions bibliques. On ne fait pas juste répéter les informations, on parle. Et là, il voit, alors, il dit d'une voix forte, il lui dit, « Lève-toi! Lève-toi! » Droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond. Je mets le pas dans nous autres, on aurait fait le premier bond. D'un bond, il se lève et il marcha. Il n'a jamais marché. Il n'y a pas juste une guérison. Il doit y avoir quelque chose qui s'est créé. Il y a quelque chose de plus, là. C'est pas simplement, je ne sais pas, le gars, il marche. C'est sûr que ça attire un petit peu l'attention. Et là, ils vont dire, les dieux nous visitent sous forme humaine. Et certains nous rappellent que dans cette ville, entre autres, il paraît qu'il y avait déjà eu, selon une légende, la visite de Jupiter ou Zeus avec, ici il est parlé sous le nom de Jupiter, là, et Mercure, qui était peut-être l'autre, le correspondant grec, c'est Hermès, merci. Donc, puis il paraît qu'on les avait négligés, puis on n'avait pas écouté ce qu'il avait dit, puis ils ont envoyé la peste. C'est un petit peu frustré, là, tu sais. Donc, ils se sont dit, il ne faudrait pas que ça nous recommence. Fait que quand ils disent, oh, on a une visite à nouveau, ça fait qu'ils ont dû se dire, attends, cette fois-ci, on va se préparer. Fait que la nouvelle part, le prince de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des bœufs, des taureaux, avec des bandelettes vers les portes et ils voulaient, de même que la foule, offrir un sacrifice. Et puis là, on se rappelle, les apôtres ont su ça et ils sont partis dans la foule, ont déchiré leurs vêtements. C'était une forme de montrer ton humiliation, mais en même temps, ton indignité. Aujourd'hui, on pourrait dire... qu'est-ce que je pourrais dire qui est passable? Là? Non, ils n'ont pas pété leur coche, vraiment. Ils étaient... C'est comme si on s'est dit aux gens, « Hey, on va aux toilettes comme vous autres! » Je sais pas, ça fait vulgaire un peu, tu vas me dire. Mais c'est de ramener les gens... Hey! Je veux dire, on est de même nature que vous autres. Regardez pas nous autres. Arrêtez d'être des idolâtres chroniques. On adore tout ce qui bouge. Mais le problème, c'est qu'on n'adore pas en bonne place. Et puis là, ils font tout pour montrer qu'ils sont des êtres humains. Et le problème, c'est que des fois, quand tu blesses le petit cœur des gens qui voulaient te faire une faveur, ils n'ont pas aimé ça. Et puis c'est là, finalement, qu'ils ont été très ouverts à ce que si quelqu'un vient finalement les monter contre les apôtres, ils les ont attaqués. Rappelez-vous une chose, tout ce qui est élevé va être abaissé. Le Seigneur dit, c'est une abomination des choses qui s'élèvent. Si vous élevez trop quelqu'un dans votre vie, fais apprécier le ministère des gens, fais apprécier finalement des gens qui vous aident, fais apprécier vos parents, ainsi de suite. Mais si vous les élevez un peu trop haut, vous allez être les mêmes qui vont les rabaisser un jour un peu trop bas. Nous autres, on a travaillé avec un ministère dans le passé, puis qui était vraiment, il y avait des gens qui avaient des dons extraordinaires. C'était vraiment des gens qui emmenaient large. C'était assez impressionnant. Puis nous autres, à l'époque, on était tous pas mal jeunes, tu sais. Fait que tu regardes tous ces gens-là, c'était des héros pour nous autres, c'était des modèles. C'était vraiment une source d'inspiration pour la mission, pour l'étude biblique. Je veux dire, il y a une forme saine d'imitation. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. OK? Donc, il y a une forme saine d'être inspiré par quelqu'un. Mais entre inspiré par quelqu'un et quasiment adopter sa personnalité, il y a une feuille de papier entre les deux. Des fois, tu transgresses un peu, quasiment en voulant devenir la personne plutôt que de t'inspirer de ce qu'elle produit sur ta vie. Moi, j'en ai plein de héros dans ma vie. Plein. C'est ces gens-là qui m'ont fait toujours faire d'un pas de plus. Tu sais, tu repenses à ces gens-là en disant « qu'est-ce que lui aurait fait à ma place? » Il me semble qu'il aurait fait telle chose. Fait que tu t'inspires de ces gens-là, c'est très bien. Mais il y a un moment donné, ça peut devenir une idolâtrie. C'est que tu refuses d'avoir un jugement sur les choses et là, tu prends tout comme du cash, comme si c'était Dieu qui parlait. Un jour, comme ça arrive presque toujours, ben finalement, on s'aperçoit qu'ils sont humains. Crise majeure. Non, je vous le dis. Et j'ai remarqué, finalement, dans tout ce que je connaissais, parce qu'on était un moyen ministère, là, tu sais, qui marchait, puis je vous le dis, il y avait vraiment une inspiration, c'était incroyable. Là. Mais à un moment donné, ça tourne au vinaigre un peu. Il y a des gens, ça fait quoi, ça doit être ça? Ça fait combien de temps? 81? 15 ans. On va dire, ça fait 15 ans qu'on est parti de là, à peu près. 2016? 15-16 ans après. Hein? 2000 dans ce bout-là que ça arrive. OK. Bref, je me promène un peu partout, puis je revisite des fois des amis avec lesquels nous avions tous travaillé ensemble dans ce ministère. Et il y en a que dès que tu nommes le nom, il y a de l'écume qui sort. Tu te dis, écoute, reviens-en. Non, mais c'est écœurant ce qu'ils nous ont fait. Non, c'est pas écœurant ce qu'ils nous ont fait. C'est écœurant comment tu étais épais. C'est pas pareil. Je sais que c'est dur à passer cette étape-là de dire tu as vraiment vendu ta conscience à un moment donné pour licher les bottes de quelqu'un, puis à un moment donné, tu t'es aperçu qu'il avait marché dans du fumier puis ça goûte pas bon. Et puis là, tu veux y faire payer. Le Seigneur va dire non, je suis désolé. Tu m'as abandonné pour te pogner un idole. Parce que c'est facile d'abandonner le Seigneur pour prendre un moyen qu'on voit. Parce qu'on veut, comme Israël, dire un jour à Samuel, « Écoute, ben, on est tanné de dépendre de Dieu qui nous envoie des sauveurs une fois de temps en temps. On veut quelque chose qu'on voit. On peut pas, on veut pas m'entendre parler, on veut le voir. On veut des vrais rois et qui sont père en fils des rois, comme les autres nations, puis on est tanné d'avoir l'air des tipoutes. Eux autres, ils ont des palais, ils ont des dignités qui peuvent remonter à longtemps. Nous autres, qu'est-ce qu'on a? Un Samson qui sort de quelque part. il tourne mal en détruisant le temple d'abord. Après ça, on a un Jephthé qui, lui, oui, il amène une livrance, mais après ça, il pète la gueule à Israël. Après ça, on attend un autre, un Gédéon qui, lui, part avec une armée de 33 000, mais s'en va se battre avec 300. Et puis, tu sais, ils sont comme tannés. On veut du vrai monde qu'on voit avec des vraies institutions, avec du vrai vrai, comme si Dieu était faux-faux. Mais c'est toujours ça. C'est ça l'idolâtrie. C'est de le vendre, lui, qui est notre bien éternel, qui ne peut pas nous tromper, même pour les moyens que Dieu nous donne. Dieu vient par des moyens dans nos vies. Quelqu'un nous a annoncé l'Évangile, mais quelqu'un ne s'est pas annoncé comme Évangile. Quelqu'un nous a annoncé l'Évangile de quelqu'un, m'a annoncé la bonne nouvelle et les vertus de quelqu'un qui peut sauver. Et normalement, on est supposé se diriger vers la personne qui nous a été présentée, à savoir Jésus-Christ. L'apôtre Paul a pété leur ballon avec Barnabas en disant « Non, on vous annonce Dieu, on ne vous annonce pas nous autres. » Mais c'est une réaction normale. Est-ce que vous vous rappelez le miracle similaire dans les Actes? Pierre, à la porte du temple, même genre. Même genre, tu sais, le gars boiteux de nature, il est là, il quinte depuis toujours, il est à la belle porte. Et puis, en passant, si vous devenez quêteux, il y a deux bonnes places à aller. Non, mais on va vous donner une stratégie, je l'ai fait quand j'étais jeune. Là, deux places bonnes pour quêter. Une est devenue moins bonne avec le temps, à perdre de la popularité, c'est les portes des églises. Mais c'est moins fréquenté qu'avant. L'autre bonne place pour quêter, c'est? Bon, le métro, non. Comment? Banque, pas pire banque. C'est moins banque, je n'ai pas pensé à celle-là, c'est vrai. Mais ils n'ont rien que des vins quand ils sortent de là. Ça va? Une autre place. La SAC. La Société des alcools du Québec. À tous les fois que tu vas t'acheter une bouteille de vin, tu te chantes, puis le gars, il doit, oh, monsieur, bon... Tu payes ton dû en disant « OK, laisse ma conscience tranquille, tu comprends? » Donc, à l'époque, il n'y avait pas la SAC, parce qu'on faisait notre vin. Il y avait néanmoins encore le temple, fait que c'était une place où il était, fait que ce gars-là était là, puis Pierre et Jean, voyant quelque chose encore, ils ont vu encore quelque chose. Ces gars-là sont connectés, ils marchent avec un vrai Dieu, il est vivant. C'est pas juste un cours de philosophie chrétienne là, qu'ils sont en train totalement d'apprendre et puis qui se conforment. Ils ont été réconciliés à Dieu, Dieu est Dieu vivant. Ils ont abandonné les idoles, ils ont abandonné finalement toutes sortes de choses pour s'attacher à quelqu'un de vivant, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui agit. Alors finalement, ils sont très sensibles. Ils ne marchent pas sur le pilote automatique. Ils ne font pas juste dire « ouais. » Tu sais quand ta femme te parle? T'es-tu d'accord avec ça? Ouais. Fais comme ça, on te change la couleur. Ouais. T'aimes-tu ça? Ouais. Tu donnes-tu 100$? Ouais. Tu te réveilles après, regarde. Mais tout ça pour vous dire finalement que ces gens, ils voient, ils vont faire la même chose au nom du Seigneur. Lève-toi, il prend le gars par la main, tac, il lève, et le gars se met à... Il danse, il court, il saute. Encore une fois, il y a quelque chose de pas normal qui s'est passé dans sa vie. Mais même chose que... C'est sûr que les Juifs n'iront pas aussi loin que dire « On a les dieux parmi nous car Israël écoute un seul ». Mais les Juifs, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils ont juste transformé leur idolâtrie plus subtilement. Ils trippent sur la piété de quelqu'un. Ils trippent sur la piété de la personne. Et qu'est-ce que Pierre leur dit? Non, écoutez, là, vous regardez à mauvaise place, les gars. Ce n'est pas en cause d'une piété personnelle, ni d'une puissance personnelle. Et ça, là, ça bouleverse bien du monde dans les églises. On est là à ce qu'on veut tous développer une piété extraordinaire pour que le Seigneur puisse nous donner tout ce qu'on veut. Et Pierre dit, non, ce n'est pas à cause d'une piété personnelle que ces choses-là sont arrivées. C'est parce qu'on a confiance en lui, on a confiance dans son nom, on croit en lui. Et parce qu'on croit en lui et qu'il a rétabli toutes choses pour nous et qu'il rétablit la relation avec nous, on est en relation avec nous, il nous a montré ce qu'il voulait faire, on a donné au gars ce qu'il voulait donner. Mais combien d'entre nous, on reste continuellement en relation avec le plus grand des trésors que cette vie peut nous donner? C'est lui. Le reste, là, ça passe. Tout le reste va passer. Mais Dieu demeure, sa parole demeure. Alors, c'est comme si Luc nous reprend en disant, regardez, parallèlement, là, ça commence avec les Juifs, les même genre de miracles, et il va prendre des miracles que Dieu a fait par Paul et Barnabas pour dire, voyez maintenant que ça va encore plus loin, mais c'est pareil. C'est le même évangile, mais mieux compris, mieux développé. Donc, finalement, après avoir annoncé tout ça, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il va y avoir des gens qui ont entendu qu'il se passe quelque chose maintenant à Lystre, parce que les nouvelles partent, tu sais, les gens partent, là, puis ils font des types pendant ce temps-là. Alors, d'Antioche et d'Icône, il y a des Juifs qui ont été, rappelez-vous, ceux qui ont, ils ont méprisé Paul, puis ont contredit son message, ils ont tout fait péter sa réputation. Là, ils se sont donnés comme mission de détruire ce gars-là et ce message. Alors là, ils s'en viennent vers cette ville et ils vont gagner la foule, la même foule qui croyait que c'était des dieux tout à l'heure. Mais c'est sûr qu'ils sont devenus à nouveau vulnérables. Ils ont repris une position dans ce monde de brebis au milieu des loups. C'est pas pour rien que l'esprit religieux dans nos églises, dans les mosquées, dans les synagogues et même dans la politique fait qu'on essaie de prétendre que les gens qui sont en avant sont différents des autres pour donner une crainte au peuple. L'esprit religieux, il n'est pas juste dans l'Église, l'esprit religieux, il est partout. Il est partout pour faire une forme de hiérarchie magique. Parce qu'on a peur des uns des autres, en passant avec raison. Quand le Seigneur dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups », il savait très bien ce qu'il disait. Mais puisqu'ils ont enlevé finalement ce qui impressionnait les gens pour encore une fois redonner la gloire à Dieu seul, à Christ seul, ils sont devenus vulnérables. Et les Juifs sont arrivés et ils ont commencé à gagner la foule et la foule ont lapidé celui qu'ils pensaient être un dieu tout à l'heure. Ils l'ont lapidé. Paul est sorti de lapidé. Ils l'ont laissé comme mort. Veux-tu même dire que c'est qu'ils ont à toute la hire de même ce gars-là? Et là, ils laissent comme mort, mais il n'est pas mort. Les disciples vont l'entourer, qui est marqué ici. Il va se lever. Il va entrer dans la ville. Mais me semble, moi, j'aurais été dans une autre ville, personnellement. Là, tu sais. Surtout, il doit être assez remarquable après avoir été lapidé de quelques bleus. Tu vois. Es-tu tombé un petit peu, oui. Donc, mais après, le lendemain matin, ils vont partir pour Derbe avec Barnabas. Il vient de se faire lapider. J'aimerais juste vous rappeler, il vient de se faire. Donc, le lendemain, quand ils sont partis pour Derbe, et quand ils eurent évangélisé cette ville, où c'est qu'ils vont chercher leur persévérance, leur zèle, leur joie, leur espérance de continuer à annoncer l'Évangile. Ils savent que ça risque d'être à peu près la même chose. Ça fait une couple de villes là, qu'ils font. T'as vu? Et là, ça va être. Là, Luc, je pense qu'il nous épargne les détails en disant bon, c'est à peu près comme d'habitude. Et puis, mais par contre, qu'est-ce qu'il donne comme enseignement à ceux qui ont cru? Il dit ici. Les exhortant à persévérer dans la foi qu'il va décrire, entre autres, dans Romains, au chapitre 5, entre autres. Puis je vais finir avec ça. Les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous autres, en ce moment, on fait tout pour dire aux gens, venez, ça règle tous les problèmes. Si quelqu'un a bien des points, t'es sûr? Je te le dis. Tu vas être heureux, t'en reviendras pas. Ouais? Wow! Paul dit, en passant, vous avez cru, c'est super, mais bon, ben, je vous rappelle, hein, comme je l'ai toujours dit, vous allez avoir des persécutions. La preuve, je vous ai annoncé l'Évangile, j'ai encore quelques bleus pour vous rappeler à tout le monde comment ça se passe, mais persévérez. Continue à croire cette grâce. Je sais que c'est insultant pour un monde qui veut bâtir son propre royaume, qui veut parler de sa propre gloire, qui est fanatique de continuellement parler de ce qu'ils font. Les gens sont malades de ce qu'ils font. La preuve, est-ce que vous aimez ça, quelqu'un qui vous raconte les plus belles choses qu'ils ont faites? Là? Est-ce que vous aimez ça, entendre ça, quelqu'un qui vous raconte là, à vous personnellement toutes les merveilles qu'ils accomplissent? C'est une église, vous n'avez pas le droit de mentir, ça. En sortant, vous pourriez commenter, si vous voulez, mais ici, non. Est-ce que vous aimez ça, quelqu'un qui prendra une heure ou deux à vous parler de toutes ses merveilles de lui-même? Une ou deux personnes, il y a des chrétiens ici, super. Est-ce que ça, vous trouvez ça intéressant de trouver quelqu'un qui est intéressé à écouter vos histoires de ce que vous faites? On est toujours à l'église? Vous êtes toujours sous serment? Est-ce que vous aimez ça? Ceux qui sont intelligents en communication ici, là, Comment vous faites pour ramener quelqu'un dans une conversation qui a déconnecté parce que vous réalisez que ses yeux regardent à peu près un quart de pouce à côté de toi? Qu'est-ce que vous faites pour ramener quelqu'un dans une conversation habituellement? Parler de la personne, et puis toi, clac, oui, j'arrive. Comment? Ça, c'est intéressant. Là, on parle, oui, moi. Et là, tu les as pour quelques minutes, tout dépendant de la capacité de la personne. Paul, il veut parler d'un autre sans arrêt. Il dit, vous allez être au milieu des loups, vous allez aller littéralement chez des addicts de la pire des drogues, celle du « je me moi, toujours que moi ». Et je veux être bon parce que j'aimerais ça qu'on m'aime. Ça fait que vous allez risquer de un petit peu les froisser parce que vous allez dire, « Non, c'est vrai, sais-tu quoi? T'es pourri. » Comment? Non, pauvre, non, sans farce. On le sait. T'es pourri? Non, ben dans le sens, je suis un petit peu pourri, là, mais c'est une belle pourrissure quand même, tu sais. C'est pas pourri comme n'importe qui. Tu sais, il y a du pourri, le fun. Le Roquefort. Ouais, c'est une noble pourriture. Fait que Paul dit, écoutez, puis là, souvent, on demande à Paul, entre autres, puis les gars, on lui demande à Jean, comment on fait pour progresser dans cette vie? Parce que tu nous dis d'aller de gloire en gloire. Comment on fait? Bien, c'est en mourant toujours un peu plus. Mais on meurt comment? Faut-tu se tuer? Non, faites-vous-en pas, le Saint-Esprit s'en charge. Mais comment il fait? Il va te montrer encore plus que ce que t'es. Mais flippe pas! Plus il va te montrer ce que t'es, tu vas dire, « Oh, hey, là, wow, hey, là, oh, hey, non, dis de ma mère, mon père, société, oh, non! » Les hormones, là, on en sort à trois semaines, les nouvelles situations, hein? Mes gènes! Puis là, quand t'as plus rien à dire, c'est un dit, « Bon, tu finis, là? » Il dit, mais je t'aime. Tu m'as menti, je t'aime. Non, mais tu n'es pas supposé aimer ça, ce que tu m'as montré, là. Non, je ne dis pas que j'aime ce que je t'ai montré. Je t'aime, toi. Je sais t'es qui. Toi, tu ne sais même pas t'es qui. Moi, je sais ce que j'ai créé. Je t'aime. J'ai racheté. J'ai pardonné. Moi, là, je suis content d'être avec toi. Ah ouais? Bon, il y en a au moins un ou deux qui est content ici, au moins, vraiment. Je dis, non, il faut que tu apprennes à être content, toi, avec. D'accord? Parce que je t'aime. Oui, mais moi, habituellement, même parce que c'est fatigant là, de se faire aimer, tu comprends? On travaille fort là-dessus. Le Seigneur dit, mais tu peux rentrer dans mon repos. Parce que moi, je t'aime. Quand tu es encore mon ennemi, je t'aime. Tu ne t'es jamais posé la question quand je vous ai dit, comme commandement, aimez vos ennemis. Et j'ai fait dire à mon apôtre Paul ici, quand il a écrit sa lettre aux Romains, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Tu ne penses pas que moi, Dieu, je ne m'attacherai pas à mon enseignement? Quand je vous ai demandé d'aimer vos ennemis, en passant, ne faites rien d'extraordinaire d'aimer ceux qui sont comme vous? C'est vraiment, tu y crois, toi, à l'Évangile, pour vrai, Dieu? Ça a l'air que oui. Fait que tu sais, bien, OK. Et là, ça devient comme... Mais je ne suis pas habitué, là, je ne contrôle pas, moi, cette relation-là, là, en ce moment. Les autres, là, j'ai contrôle, tu sais. Je sais pourquoi ça marche, je sais pourquoi ça ne marche pas. Des fois, je ne sais pas, mais j'essaie de comprendre. Puis dès que j'ai trouvé le filon, pourquoi ça marche, ça ne marche pas, on se débrouille. Mais toi, Dieu, tu m'aimes quand je ne suis pas aimable. Boy, là, c'est fatigant, ça. Non, je sais, parce que tu es un manipulateur chronique, là, mais on va s'arranger avec ça. Fais-toi-en pas. Je vais t'apprivoiser. On a l'éternité, mon pote. L'éternité. C'est la petite passe que tu es dans la chair qui est un peu plus fatigant, là, mais tu vois, ça, c'est pas long. Encore un peu de temps, puis je vais en venir te chercher. Puis tu vois, le gros du problème va être réglé quand ça va partir. Mais pour l'instant, je veux que tu me fasses confiance. Va annoncer ça aux autres. Mais fais attention. Je ne veux pas qu'ils te pensent pour un démon, puis je ne veux pas qu'ils te pensent non plus pour un Dieu. Je veux que tu restes une personne ordinaire. Puis je veux que tu parles de moi. Mais ils ne vont pas vouloir entendre parler de moi. Ils vont vouloir entendre parler de toi. Fait que là, il va falloir que tu leur rappelles en disant, non. Comment ça a été un matin aux toilettes? Dites-moi pas, vous n'y allez pas. On fournit les ex-lacs si vous êtes bouché de même. C'est normal d'aller aux toilettes, ça vous donne un plus beau teint. Je dis, mais attends, on ne dit pas des choses comme ça à l'Église. Ah non? Ça ne va pas aux toilettes, ça, les chrétiens? Ça sort en vapeur? Puis la vraie vie, Avez-vous remarqué que c'est dans les églises qu'on est les plus artificiels, les plus bizarres? Et c'est supposé être le lieu où la vérité est proclamée. Mais c'est le lieu où on est les pires acteurs. On n'est même pas bon acteur en plus. C'est ça qui est pathétique. Puis le Seigneur dit, non, tu vas retourner dans la vraie vie puis tu vas parler aux gens pour vrai. Tu vas leur parler comment j'ai été bon pour toi. Fait que si tu as besoin de trouver un méchant pour parler du bon qui est Dieu, parle de toi comment Dieu te sauve à toi fois. OK. Et quand ils ont tout fini ça, ils sont retournés finalement à Antioche qui les avait envoyés. En terminant, avez-vous remarqué ici comment la parole de Dieu va croître dans votre vie? Selon l'illustration que Jésus dit, on est des terres. Hein, les quatre sols? Il y en a juste un qui est appelé bon. On sait pourquoi il est bon. Ce n'est pas qu'il est supérieur aux autres, c'est qu'il a été travaillé. Il est labouré, il est travaillé, il est préparé à recevoir la parole. Maintenant, si vous protégez une semence et qu'elle n'est pas agressée par l'humidité, elle n'est pas agressée par la terre, avez-vous remarqué que des semences peuvent durer des années et des années? Alors, la parole de Dieu est une semence aussi dans nos vies. Et la croissance qui produit le fruit de la parole de Dieu dans nos vies ne se fait que lorsque cette parole est agressée. Pas nous autres, c'est pas la terre qui pousse. C'est pas la terre qui pousse. La terre, c'est le milieu qui la reçoit. C'est tout. Vous n'êtes jamais demandé finalement de quoi un arbre est fait. Pensez-vous que c'est de la terre? L'arbre ne prend quasiment pas de sol. Écoute, tu sais, dans le temps, ah oui, les racines, ça mange de la terre. Table au nom, mon chum, il n'y aurait plus de terre, imagine-toi, plus ton arbre pousse, plus il descend. Il mange la terre. Il ne mange pas la terre. Il va chercher quelques petites affaires, pas grand-chose. Pour absorber finalement toute l'air, le carbone, il filtre et puis il ramasse et il transforme ça. Il est dans l'épreuve. La semence, pour qu'elle pousse, il faut qu'elle soit mise à l'épreuve. Fait quand Dieu nous met à l'épreuve, Romains chapitre 5, ou comme Jacques dit, voyez comme un sujet complet de joie, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, il nous rappelle, entre autres, comme pour Pierre, que c'est pour purifier d'abord notre foi de ce qui est faux, et deuxièmement, pour ce que Dieu a promis, il va l'accomplir, et sa parole dans l'épreuve se manifeste comme étant véridique. Et ça devient le fruit de l'esprit et non pas ma chair rendue capable. Donc, si on peut juste dire au Seigneur, « OK, Seigneur, je ne comprends pas, mais je l'accepte. Et tu dois m'amener dans l'épreuve, tu dois me disqualifier sans arrêt pour m'accorder finalement la justice par la foi et non celle qui vient de ce que je fais. Donc, tu ne veux pas que je fasse le mal, mais tu ne veux pas que je me confie dans ce que je fais non plus. Alors, apprends-moi ce chemin qui est vraiment étrange. » C'est pour ça que Jésus dit, « Il n'y a pas grand monde qui l'ont trouvé, ce chemin-là. » Large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition, à rien. Mais le chemin qui mène à la vie est tout petit. C'est croire en lui. Mais c'est dur d'abandonner de croire en soi, croire dans nos exercices spirituels, croire dans tout ce qu'on fait. Est-ce qu'on va croire en lui qu'au jour de l'épreuve, on va dire, « OK, tu permets une épreuve? OK, parfait. » T'es dedans, là. C'est assez rare que vous choisissiez vos épreuves, pas vrai? Règle générale, ils vous choisissent. T'es dedans! T'as le choix. Hey! C'est pas juste! J-U-S. Juste. Puis le Seigneur va dire, regarde, il n'y a personne qui a parlé de juste ou injuste ici. Là. On t'a parlé d'épreuve versus moi, ma parole, pour que tu parles de moi, pour que tu parles de moi pour vrai. Et non que tu répètes comme un perroquet, pour que tu parles de moi pour vrai, je vous envoie comme témoin. Il va falloir que vous soyez témoin de sa grâce, de son œuvre à lui. Sinon, on n'arrête pas de parler de ce qu'on fait, nous autres, pour grandir, pour devenir spirituel, merveilleux, incroyable. Non! Qu'est-ce que c'est d'ajouter au fond de ma foi la vertu, sinon de continuer à persévérer, à croire ce qu'il dit, qu'il est pour moi, et puis d'arrêter de m'en faire tant que ça pour ce que je suis? J'atteins pas le but, big deal, OK, j'ai compris. C'est pour ça qu'il est venu. Il a payé ma dette. Vous êtes réconcilié à Dieu par Jésus-Christ, c'est réglé. Maintenant, Dieu dit, maintenant, la vie éternelle, c'est que tu me connaisses. Mais nous autres, on est encore obsédés de se connaître. Et c'est pour ça que la part d'entre nous autres, à un moment donné, on s'éteint spirituellement, on ne trouve plus ça intéressant, parce que ça ne parle pas assez de nous. Mais quand on s'en va annoncer la bonne nouvelle, les gens ne veulent pas trop entendre parler de nous. Ils sont déjà assez avec eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de toi en plus, là. Ils veulent entendre parler, y a-tu quelqu'un, y a-tu quelque chose, y a-tu un espoir dans ce monde? Et on est supposé dire oui. Puis sais-tu quoi? Il vient d'ailleurs. Il ne vient pas de ce monde, mais il est venu dans ce monde. Et il nous a véritablement aimés quand on n'était pas aimables. On l'a rejeté, on l'a tué, mais il est ressuscité. Et il dit, je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. Fait qu'on annonce aux gens, venez. Croyez en lui, il n'y a pas d'autre espoir. Il n'y a rien d'autre à croire. Usez du monde. Mais vous savez très bien que vous êtes en train d'user de choses qui sont en train de disparaître. Et un jour, vous-même, vous allez passer. Mais lui demeure. Sa parole demeure. Et ceux qui auront fait sa volonté demeurent. Demeurez. Demeurez, pensez pas. Croyez en lui. Il a toujours promis et il a toujours réalisé ce qu'il a promis. Fait que s'il a réalisé la partie la plus claire qui sont les évangiles, pensez pas qu'il va pas faire le reste. Come on. Et c'est nous autres qui aimons, croyez-le ou non, c'est nous autres, le vrai nous autres. Pas le nous autres qu'on présente à tout le monde, qu'on tout le monde trouve trippant, là. Le vrai, 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 vrai nous autres, qu'on cherche à garder dans le garde-robe quand la visite arrive. Et c'est pas merveilleux, ça? Dieu m'aime. C'est fini de me poser la question pourquoi. Il ne veut pas répondre. Fait qu'on va passer à d'autres choses. Il m'aime. Il vous aime. Il nous a tellement aimés. Il nous aime encore. Puis il prend plaisir à nous aimer. On est aimés. Voilà ailleurs. Seigneur, merci de vaincre notre incrédulité. Parce qu'on est victime de nous-mêmes. On a tellement investi en nous pour qu'on ne soit pas rejeté, qu'on soit conforme, qu'on atteigne les idéaux de tout le monde, de nos parents, de notre société, de nous-mêmes, et même de toi, Seigneur Dieu. On a peut-être certains d'entre nous tellement travaillé à être obéissant. D'autres, on s'est découragé et on est devenu rebelle. Mais qu'on a été rebelle ou qu'on a été obéissant, Seigneur Jésus, merci d'être venu vers nous quand même, de ne pas avoir méprisé personne. Même si nous, on t'a rejeté, même si nous, on t'a méprisé, même si nous, tu étais peut-être sur la liste de nos espérances, de nos idoles, tu étais peut-être malheureusement le dernier sur la liste. Mais merci pour ton humilité incroyable, ta douceur, ta bonté. Quand tu dis, Jésus, que tu es doux et humble de cœur, c'est vraiment pas juste des mots poétiques, c'est vraiment vrai. Merci, merci de nous apprivoiser, merci de nous pardonner à tous les jours, merci de te lever, Seigneur Dieu, quand on est accusé par l'accusateur des frères. Merci, Seigneur Dieu, que même quand la loi de ton Père se lève en toute justice pour nous condamner, tu présentes encore une fois tes mains qui ont été percées, car tu as écrit notre nom dans tes mains. Tu nous as inscrits dans ton cœur. Tu nous as aimés de toute éternité mystérieusement. Et Seigneur, non seulement tu as dû payer le prix pour nous, mais ton amour nous a même montré que tu as voulu payer ce prix. Tu n'as pas subi le prix. Tu as voulu, tu nous aimes à ce point que tu voulais payer notre dette. Seigneur Dieu, à toi toute la gloire. Et merci de nous délivrer jour après jour de cette incrédulité crasse qui nous garde et qui nous fait souvent regarder ailleurs qu'à toi, Seigneur Dieu. Merci de nous pardonner. Merci d'être si bon. Et merci de nous rendre toujours de plus en plus capables d'aller annoncer une bonne nouvelle, même au milieu des loups. Car tes brebis entendent ta voix, elles vont répondre. Et merci de venir nous chercher bientôt, et que tout ce monde en rébellion contre toi un jour, on n'entendra plus leur voix, mais on va entendre que ces voix vraies qui te rendent toute la gloire, Seigneur Dieu, comme on le voit souvent dans l'Apocalypse. À toi, toute la gloire. Seigneur, merci énormément pour cet amour. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on te dit merci. Amen. Bonne semaine tout le monde.
Bonjour, mon nom est Michel Bougie, bienvenue à ce clip de La Bible parle en action. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu particulier. À La Bible parle, nous avons depuis quelques années un camp de jour, et puis j'ai avec moi pour en discuter Christine Réel, directrice principale de La Bible parle. Bonjour Christine.
Bonjour Michel.
Christine, qu'est-ce que ça fait dans une église, un camp de jour?
Ben écoute, l'idée nous est venue en 2011 où... on est très préoccupé par l'éducation de nos enfants. D'ailleurs, on a toujours eu une école dans notre église. Et puis, on voulait que les enfants, durant l'été, puissent continuer à vivre des activités, des choses intéressantes et dans un environnement chrétien. Alors, on a décidé d'instaurer le camp de jour pour cette raison-là, avec le même genre d'activité qu'on retrouve dans tous les camps de jour de notre région ou au Québec, mais justement avec des activités, des thématiques qui vont aussi inclure des partages bibliques, des louanges, des temps de prière et des activités aussi qui vont permettre, par exemple, on parle souvent des héros de la foi. Alors, souvent, pendant une semaine, on va dire, on fait une activité qui parle des héros de la foi.
Okay.
Et il va y avoir toutes sortes de jeux, de thèmes, de trucs agréables autour de ce thème-là. Alors, c'est un peu pourquoi qu'on a décidé de bâtir ce camp-là, pour que nos enfants continuent, qu'on soit une continuité de la maison avec nos valeurs chrétiennes.
Puis les gens qui y travaillent au camp de jour, c'est tous des gens d'expérience.
Oui, toute la majorité, parce qu'on en forme aussi à chaque année, on essaie d'en former pour les années suivantes. Donc, on prend des jeunes étudiants, parce qu'on est subventionné aussi par le gouvernement fédéral pour aider des jeunes étudiants. Donc, on prend des jeunes étudiants qui viennent et qui ont de l'expérience soit dans d'autres camps et ici. Mm-hmm. Et puis, ce sont des chrétiens aussi qui viennent, des jeunes chrétiens qui souvent sont très impliqués déjà dans leur église auprès des enfants, soit aux ados, soit à l'école du dimanche. Donc, ils ont déjà de l'expérience avec les jeunes.
Génial. Écoute, donne-nous donc quelques détails. Là. C'est quoi le où, quand, comment? Comment ça se passe? Là?
Fait que, comme je l'ai dit, on retrouve tout ce qu'on peut retrouver dans n'importe quel autre camp. Jour, activité sportive, activité culturelle, de l'art dramatique, de l'art plastique, des choses thématiques et aussi, bien entendu, des sorties, évidemment, à la ronde, aux glissades d'eau et plein d'autres. Et puis, c'est du lundi au vendredi. Ça commence le 28 juin, donc le 27 juin. Et puis, ça va se dérouler pendant 8 semaines, c'est-à-dire jusqu'au 19 août. Donc, le camp comme tel est de 9h aller à 16h. Mais il y a un service de garde. Le service de garde commence à 7 heures, de 7 à 9, et de 4 heures, donc 16 heures à 18 heures.
Okay.
Ce qui est intéressant, c'est que tout ça, il y a juste un prix.
Okay.
Incluant les sorties, tout le service de garde, c'est 85 $ par semaine. Je vous mets presque au défi de trouver un camp moins cher parce que, justement, le fait qu'on a pu être subventionné par le gouvernement fédéral pour des camps, pas pour les camps, mais pour des projets d'été, nous a aidés. Alors, ce qui est intéressant de mentionner aussi, c'est que ça se fait ici, à l'Église de la Bible parle, au 790 18e avenue à Laval. On a un gymnase, beau temps, mauvais temps, on peut faire plein d'activités. On a un paquet de locaux de l'école du dimanche qui ne sont pas utilisés justement durant l'été et qui ont déjà tout été aménagés pour des enfants. Et on est à côté d'un merveilleux parc municipal avec des installations fantastiques. Donc, on avait tout ce qu'il faut pour permettre justement d'accueillir des enfants. Alors, j'aimerais juste mentionner que pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, on a un petit dépliant comme celui-là qui explique un peu tout, l'information que vous allez avoir besoin. Il se retrouve sur notre site web au www.labibleparle.com et il y a également la fiche d'inscription que vous pouvez retrouver. Maintenant, si c'est pas, si vous avez besoin d'autres questions, vous allez trouver dans le dépliant aussi l'adresse de courriel.
Okay.
Sinon, ils peuvent utiliser le site habituel qui est info@labibleparle.com.
Et puis, ça s'adresse à tous les parents de partout. C'est pas juste pour notre église, là, je veux juste
dire. Non,
oui,
tu fais bien de le demander parce que c'est l'église La Bible parle qui l'organise, mais c'est pour toutes les familles chrétiennes de partout.
Maintenant, ça s'adresse aux enfants de quel âge à quel âge?
Bonne question, c'est les enfants de 5 ans à 15 ans. C'est sûr qu'on a moins rendu à 14-15 ans, on a moins, mais bon, s'il y a des enfants qui veulent se joindre à nous quand même à 14-15 ans, ils sont les bienvenus.
Excellent. Merci beaucoup, Christine. Alors, merci d'avoir été avec nous pour cette capsule. Et puis, on vous rappelle, l'information, telle que Christine l'a mentionné, se retrouve sur labibleparle.com. Et vous avez juste à aller à la rubrique « Camp de jour » et vous allez avoir toute l'information. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.